À la maison, vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1. Elle était bien cette musique, mais avant, faut passer aux choses sérieuses. Bonsoir à tous, les amis. On les serrait comme des sardines. Tiens, on va chanter la chanson de Patrick Sébastien. Vous la connaissez? Ouais, les serrer au fond de cette boîte. C'est fait maison. On est en nouveau studio de stream qu'on a inauguré vendredi pour l'hebdo Étienne. Ce matin pour la matinée Étienne. Et là, j'ai décidé de faire ça dans la petite partie consacrée à la matinée Étienne. J'ai fait ça tout seul comme un grand. J'ai installé deux micros de plus. La même caméra que ce matin. On est bien.
On est bien. Mal, ouais. On est bien. Bien serré,
on
mais.
Est serré, mais on est bien. Bah aussi, ils sont serrés. Vous êtes vachement nombreux déjà. Comment ça va, les amis? Un petit react, comme on dit ce soir, c'est-à-dire qu'on va regarder un truc ensemble, un doc, un documentaire, voilà, signé de notre ami à droite ici, qui s'appelle
Luc Brisson.
Ça me permet de régler les micros en même temps.
C'est réglé, ça va.
Et puis à ma gauche, bah, vous connaissez parce que bah, Julien est déjà venu à la maison, notamment dans l'hebdo Étienne. Julien
Pain.
Voilà.
C'est cela.
Je suis content quand je t'invite parce que j'ai plein de gens sur Twitter qui viennent dire des trucs super gentils.
C'est non, pas que.
Donc voilà, petite double stream ce matin, puisque de revue de presse ce matin. Je suis très heureux de continuer à. C'est un peu la crémaillère, quoi. De faire la crémaillère de ce.
Ah, on est content de venir à ta crémaillère. Ouais, on est super content.
Je suis content. Oui, je sais, on voit l'écran du PC. Oui, mais c'est moi qui ai tout réglé, hein, donc c'est forcément artisanal. Hein. Ouais, vous voyez le petit.
Où est-ce qu'il voit l'écran du PC?
Vous voyez le petit là? Tu vois? Oh. Ah ouais. Ah ouais, je fais ça de façon un petit peu cool. Hein. Ce matin, après la matinée, j'ai tout installé tranquillement, j'ai tout réglé. D'ailleurs, si à un moment il y a un truc qui vous va pas, vous me dites. Hein. Tiens, ça, c'est la tasse de café de ce matin. Tu vois qui est encore là. Voilà. Hello, Samuel, Julien et Luc. Merci, Dodinel. On lit un petit peu le chat, tiens. Avant de démarrer, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ce soir. Si c'était parfait, ce serait ennuyeux, me dit Mascara. Je suis bien d'accord. Fan de Julien, me dit Nawal Paris, surtout depuis. Les Room Clubhouse.
Alors, c'est marrant parce que j'ai dû en faire deux.
Ouais, bah tu
donc,
vois ça.
Merci. Tu vois, au défunt Clubhouse.
Ça touche. Clubhouse, c'était quoi déjà? C'était les.
C'était l'appli où, ouais. Où on faisait des. Un peu comme des Space, quoi. C'est l'ancêtre des Space Twitter.
Ouais, d'accord.
C'est okay. Audio, quoi.
C'est audio.
C'est uniquement de la discussion audio. Ouais.
Et c'était bien?
Ben moi, j'adorais, mais ça n'a pas marché.
Mais ça a duré deux semaines, non?
Ça a duré. C'est vrai?
Plus, ouais, enfin, ouais, un mois.
Je me rappelle, on m'invitait, j'ai reçu des invitations, mais en fait, je ne suis pas allé. Parce que du coup, je me dis comment ça marchait pour l'interactivité. Thierry Moreau, à l'instant dans le chat, le travail de Julien est salutaire en ces temps compliqués. Eh ben,
merci Thierry, c'est sympa.
Tu vois, qui c'est l'ami de Thierry Moreau, bien sûr. Tu vois, le journaliste spécialisé médias, télé, qui a été Red Chef, presse écrite maintenant, streamer. Non, vous n'avez jamais été ensemble ici
Je
ne
pense pas qu'on soit venu ensemble, mais merci.
Je vous invite, Thierry, super sympa. Bon courage au modo. Je vois beaucoup de bon courage au modo. Tiens, on va les saluer. Oui, bah, évidemment, on est sur un sujet un peu sensible ce soir, la désinformation. On va regarder un doc ensemble. C'est un doc de 30 minutes. Évidemment, on est sur Twitch. On va prendre le temps. On va faire des petites pauses.
Ça va durer 2 heures.
Ah, ça va durer. Pouh.
deux heures. Il est jamais venu ici, lui. Il ne sait pas comment ça se passe encore.
deux heures, on n'aura peut-être pas lancé le doc encore. Tu vas découvrir un univers, tu vas voir.
Deux heures, on sera. Très peut-être bien. À la fin de l'intro, peut-être.
Donc, le doc, on va le regarder. On fera des petites pauses si vous avez des questions, si vous voulez commenter. Et puis répondre à vos questions, bien sûr. Petite présentation, je vais vous présenter mes invités pour commencer. On va lancer le doc et après petit débrief, bien sûr. Moi j'aime bien vous lire
ces trois personnes ne sont pas réelles, c'est de l'IA. Comment on peut prouver? Non, regarde, j'ai une façon de le prouver. Regardez nos mains. L'IA ne sait pas faire les mains.
C'est vrai.
Là, on aurait 8 doigts. Et
pour l'instant. Pour l'instant. C'est fou quand même. Hein.
Ouais. Ouais. On est des vraies personnes.
C'est fascinant ça. Ouais. Enfin, mais bientôt, effectivement. Tiens, tu vois, on ne s'est jamais croisé avec Julien, nous dit Thierry, mais je suis très intéressé par ton travail, peut-être un prochain vendredi chez Sam. Thierry, c'est un des gars un peu de ma génération, on va dire pas les plus jeunes de Twitch, mais qui est très intéressé par tout ça, quoi. Mais tu n'étais pas invité à manger, c'est à vous, Lazarette, non. Alors, j'ai fait la première partie avec l'ami Jean Massier de C'est à vous sur France 5 tout à l'heure, mais, on va vous raconter les coulisses, c'était enregistré, donc c'était pas généré par une IA, mais c'était enregistré, on a enregistré cette émission de lundi de Pâques, vendredi, avec Jean Massier chez Babette, chez Elisabeth Lemoine, et du coup ça m'a permis de organiser ce petit stream React ce soir. Pourquoi tu te déplaces sans ta couronne, Julien, dit Clamakin? Alors ça, dans le langage Twitch, c'est un...
ça veut dire, je comprends pas.
Ah bah ça, c'est un gros compliment, ça. C'est la couronne, c'est par exemple tu fais un truc exceptionnel sur Twitch ou sur Twitter, il y a quelqu'un qui va dire dis donc, t'as laissé tomber ta couronne, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Trop bien, sur le compliment. Je savais pas, d'accord.
Je t'en lis parce que comme je sais que
il me faut un traducteur, du coup c'est sympa.
Tiens, tu vois, c'est le King, tu vois la petite couronne qui arrive, okay, par exemple. Okay. Voilà, il y a Joe, mon ami Joe, qui est là, qui est salué par des amis. Voilà. Sois pas surpris, j'aime bien un petit peu prendre la température, non pas de la pièce, mais du chat au début. Voilà. Je vois plein de messages sympas. Oui, c'est la pièce du stream du matin, Fraise Lover, exactement. C'est le deuxième stream dans cette pièce, en fait. Après celui de ce matin. Ok, donc déjà, Julien et Thierry, invités dans une prochaine rencontre Étienne. M. Laurenton, c'est noté. Bravo pour la qualité de l'émission de Julien, je suis fan, me dit Dick Adragme. Tu as bien fait de venir, dis donc.
Ah, tu vois.
Après le doc, je pense que vous aurez des petits mots sympas aussi pour le travail de Luc. Alors, vous n'avez pas de chance parce que là, j'attends imminemment cette semaine un joli petit bureau de stream pour cette pièce.
Ouais.
Où on sera un peu plus confortable parce que là, vous ne voyez pas l'envers du décor. Il y a deux tables qui ne sont pas au même niveau. Il y en a une qui descend toute seule, qui remonte toute seule. C'est la tienne.
Ouais, voilà. Moi, je suis obligé de tenir mon micro, sinon elle tombe.
Nous, ça va à peu près. Voilà. La table de mixage est à gauche, là, donc si j'ai besoin de faire des trucs, c'est par là. Le PC est là, enfin ça part dans tous les sens. Quoi. Est-ce que le doc est dispo en replay? Oui. Il est disponible.
Il est dispo en. Ouais, je pense. Il est sur le site de France Info.
Il est partout. Il est sur la chaîne.
Il est sur ta chaîne, Julien.
Il est sur ma chaîne YouTube. YouTube, l'instant détox. C'est là d'ailleurs qu'on va le visionner, je pense.
Exactement. Ouais. Alors en fait, bon, je vous présente un petit peu le concept de ce qu'on va faire ce soir. On va regarder ensemble ce documentaire intitulé
Désinformation, la contagion.
Désinformation, la contagion, réalisé par toi.
Oui.
Donc, Luc Brisson.
Exactement.
Voilà. J'ai eu des petites blagues quand j'ai annoncé ta venue en disant quand même, Luc Besson à la maison, trop classe.
J'ai vu.
Ça va pas être la première fois.
C'est pas du tout la première fois. On m'a déjà demandé si j'étais le fils de Luc Besson, mais ouais. Du coup, ça marche pas.
Mais qui aurait fait une faute d'orthographe au moment de déclarer.
Et qui aurait donné le même prénom à
la maternité.
Le père bourré.
Ouais, c'est ça, le père indigne.
Et qui a donné le même prénom à son fils, du coup.
Donc, Luc, oui, en plus. Tiens, je vais t'appeler Luc. Luc, journaliste.
Oui.
À France Info.
Exactement, à France Info, à l'émission Vrai ou Fake, du coup. On travaille avec Julien.
Voilà. Et alors Julien, que vous connaissez peut-être, qui est, Julien, corrige-moi si je dis une bêtise, le rédacteur en chef de Vrai ou Fake.
C'est ça.
Qui est la cellule de quoi? De vérification de l'info de France Info.
Ouais, de vérification de l'info et d'une manière générale de lutte contre la désinformation. C'est-à-dire qu'on fait du fact-checking, on vérifie les infos.
Ouais.
Mais on a aussi un rôle d'être en veille sur toutes les théories aussi complotistes ou les fausses informations qui circulent, parfois, vous en voyez j'imagine beaucoup passer, et notre rôle c'est quand même de repérer ce qui circule pour essayer d'y réagir assez vite. Ouais.
Incroyable Vrai ou Fake, écrit Petite Nature dans le chat. Luc, je suis ton père, nous dit Armand Malater.
On a dû lui faire deux trois
fois. Voilà. Classique.
Mais... Voilà. Ah, Antoine Decaune, ça c'est. Alors ça, j'ai ça à chaque fois. Et les amis, je ne comprends pas. Je vous promets, je l'ai à chaque fois que je passe quelque part.
C'est la pince à linge qui écrit bonsoir, je ne fais que passer. Je ne sais pas qui sont ces deux invités, mais je trouve que le monsieur à droite en gris, donc c'est toi. Hein,
c'est moi.
A un petit côté Antoine Decaune.
Mais oui, mais à chaque fois.
Non, j'avais pas fait gaffe.
Mais si, en vrai, il y a un.
Pense quoi?
Bah, en vrai, moi, j'avoue, ça m'a jamais sauté aux yeux. Mais quand on y réfléchit bien, un petit peu.
Ah. Bah, écoute, ça m'arrive tellement souvent que je commence à me dire que c'est vrai.
Vous allez prendre un boulard en sortant de cette émission. Il y a le bétonnier qui a écrit le travail que font Luc et Julien sur la désinfo est impressionnant. Il faut vraiment en vouloir pour se plonger là-dedans jour après jour et faire un vrai travail nécessaire, déboire de l'info et se prendre sur les réseaux sociaux. Moi, à chaque fois que je te vois, je te le dis. Parce que chaque fois que je t'annonce, ben, du coup, je fais connaissance un peu avec ta commu à toi.
Il voilà. n'y ouais, a pas que ça, non, heureusement, mais oui, il y a les méchants. Ouais.
Mais à gérer, chapeau, quoi. Non, mais...
Je pense qu'il ne faut pas se stresser trop avec ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une communauté qui est très identifiée, très, très agressive, qui pourrissent un peu nos réseaux sociaux à tous. Hein, je pense que ce n'est pas que les miens. Et ils m'ont pris comme cible depuis un moment.
Ouais, j'ai vu. Ouais.
C'est beaucoup des gens d'extrême droite, hein, quand même, qui en général sont.
Ouais, vraiment.
Il y a beaucoup de gens d'extrême droite. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Ouais. Mais enfin, c'est en partie une communauté d'extrême droite qui m'a pris pour cible. Alors après, bah, je vis avec et moi, j'essaie de jamais rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire que je réponds pas à l'agressivité par l'agressivité. J'essaie de, voilà, donc évidemment, si ça devient insultant, je ne réponds pas. Mmh. Mais par contre, j'essaie de pas rentrer dans ce petit jeu où en fait, on cherche à systématiquement pourrir le débat en le rendant violent, cynique. C'est pas ma personnalité.
Moi, je trouve que tu gères ça bien. Je vois par exemple que sur Twitter, par exemple, qui peut être un magnifique outil d'information et de désinformation, eh bien, il y a des commentaires que tu laisses ouverts parfois sur certains sujets. Volontairement et d'autres et parfois pas.
Hein ouais, ça, alors ça avant dépend. Je laissais ouvert sur tout, mais ouais. Je trouve qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des gens qui répètent toujours la même chose, un peu du trolling qu'on connaît, ça dissuade les autres d'intervenir. Mmh. Et au bout d'un moment, ça tue le dialogue. Donc, je me dis, plutôt que d'avoir ce genre de discussion, je ferme. Mais c'est pas ce que je veux. Hein. Moi, j'aimerais pouvoir dialoguer tranquille.
Tu as Mascarade qui dit, je me souviens du dialogue que Julien avait tenté d'avoir avec un hater en ligne. C'était édifiant. Alors ici, on donne aussi la parole à ceux qui sont pas, qui se posent des questions sur notre travail, évidemment.
Avec grand plaisir.
Voilà. Et parfois, qui sont critiques. Par exemple, tu vois, il y a Lulu qui écrit, Luc, tu l'as vu, pour faire un documentaire sur la désinformation. Ne faut-il pas d'abord avoir une forme d'arrogance, c'est vachement intéressant, de détenir la vérité, même si vous n'allez pas dans mon sens, n'est-ce pas un combat biaisé par essence, Luc ? C'est pas mal ça.
Bah, nous, ce qu'on regarde, en fait, c'est surtout les faits. En fait, quand on y a une info, tout de suite, on va regarder les faits. Donc, en fait, c'est pas une question de vérité, pas vérité, tout ça, c'est juste une question de faits. Donc, je pense pas qu'il y ait une forme d'arrogance de détenir la vérité, c'est plus quand on va voir une info, on va vouloir la vérifier, et tout de suite, on va voir si c'est une intox, si c'est plus nuancé que ça, en fait, on va juste s'attacher aux faits. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas une question d'arrogance, de vérité ou quelque chose comme ça.
Julien, ouais.
Non, après, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention parce que ça peut vite passer pour de l'arrogance, en fait. Quand tu dis, mais c'est après enquête, en fait. C'est-à-dire qu'on va se saisir d'un sujet. Par exemple, je ne sais pas, moi, si le gouvernement dit que cette fameuse retraite minimale sera à 1200 euros, on s'en rappelle. Bah, nous, on a regardé si factuellement c'était vrai. Est-ce que dans la loi, c'est ce qui était prévu ? C'était pas ce qui était prévu, on l'a dit. Mais après, on ne rentre pas dans le débat sur la retraite en disant qu'il faut voter pour ou contre ce débat sur la retraite. C'est là qu'il ne faut pas non plus nous donner des intentions qu'on n'a pas.
Et surtout, on ne détient pas du tout la vérité ou quoi que ce soit. On n'en sait pas plus que tout le monde. Quoi.
C'est du boulot, c'est tout.
Oui, c'est juste à chaque fois, on va chercher, on va essayer d'interroger les personnes qui sont spécialistes du sujet. Et c'est là-dessus que derrière, on va réussir à avoir une réponse à une question. Mais nous, on détient aucune vérité et on n'a aucun savoir ou quoi que ce soit. Quoi.
Moi, je veux rester un instant là-dessus parce que c'est important. Juste avant, sur les 1200 euros, moi, je sais que j'ai répondu à quelqu'un sur Twitter il y a deux jours, là, qui m'interpellait sur le fait que nous, journalistes, on ne fait pas notre boulot. Alors, je suis habitué à ce genre d'interpellation et je suis là sur Twitch pour répondre à ce genre de questions, d'ailleurs, pour essayer d'expliquer comment on travaille, ce que vous faites aussi, d'ailleurs, tous les deux. Et la personne me disait, tu vois, par exemple, le SMIC à 1200 euros, donc ça, c'est un mensonge gouvernemental qui a été relayé par les médias. Et la personne me prenait aussi l'exemple, c'est du journaliste de BFM là, qui s'est pris un petit peu, là, qui s'est fait prendre la main un peu dans le pot de confiture, qui s'est fait mettre de côté en disant, ça aussi, c'est encore un exemple de médias pervertis. Et j'ai répondu à cette personne, les deux infos dont tu parles, ce sont des journalistes qui les ont révélées, c'est-à-dire le debunk sur la retraite à 1200 euros pour tous. Mmh.
Et aussi un économiste, qui a beaucoup travaillé.
C'est l'un économiste et c'est l'une des journalistes, notamment de France Info, mais pas seulement, qui ont débunké cette info. Et l'histoire de Rachid Barki, parce que c'est ce journaliste de BFM qui est très fortement soupçonné d'avoir accepté des paiements, notamment de puissances étrangères, pour faire passer des informations la nuit sur BFM, c'est un consortium de médias indépendants, avec notamment Radio France dedans,
Exactement.
Et Le Monde, je crois.
Exactement. Voilà.
Et qui a sorti cette info. Donc, les journalistes, comme je vous le dis tous les matins, le journalisme est une activité humaine, donc faillible. Voilà. Donc, nous aussi, on se trompe, comme toute profession peut se tromper. Voilà. En revanche, il faut savoir se reconnaître quand on se trompe. Et c'était la question, avant de lancer le doc, que je voulais vous poser à tous les deux. Est-ce que dans votre travail de vérification de l'info, de debunk, parfois vous vous trompez et que vous le reconnaissez ?
Alors, je pense que ça a déjà dû arriver. Je sais pas, Julien, si t'as un truc en tête en particulier. Après, parfois, l'actu peut évoluer. Donc, il y a un truc qui peut être... nous, on fait en fonction des connaissances du moment, quoi.
Ouais.
Peut-être, par exemple, pour les sujets scientifiques, on va faire en fonction de la connaissance du moment.
Donc, sur les questions des vaccins, par exemple.
Par exemple, COVID, donc, si derrière, ça évolue, si on prend ce qu'on disait il y a 6 mois, ça va peut-être plus forcément être d'actualité. Mais ce qu'on va essayer, c'est on va essayer de l'actualiser, quoi. Nous on a toujours peur de,
ça c'est important,
quand on termine un sujet, de dire un truc faux.
Ouais.
Donc, forcément, on va essayer de tout verrouiller pour être sûr qu'on n'est pas dans l'erreur. Mais nous, je sais que c'est un truc, à chaque fois on se pose la question, on relit plusieurs fois ce qu'on fait. Julien, derrière, tu relis, on en rediscute pour être sûr que on a vraiment tout verrouillé pour que derrière le produit fini qu'on donne, il soit pas faux, quoi.
Mais après, par exemple, quelque chose qui revient très souvent, mais quand je dis très souvent, c'est en boucle, hein, c'est sur le pass sanitaire. Effectivement, moi, j'ai fait un post à un moment qui disait que le pass sanitaire n'interdirait pas, par exemple, n'empêcherait pas d'aller au restaurant. Voilà.
Et c'est vrai. C'est un tweet que tu as fait, et qu'à chaque fois que je parle de toi, qu'on me ressort.
Et c'est tout à fait vrai. Donc, c'est un tweet que j'ai fait, et je me suis expliqué à de nombreuses reprises là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une information, on vous dit, qu'est-ce que c'est que le pass sanitaire ? Donc, nous, notre boulot, c'est pas... Effectivement, le pass sanitaire, c'est quelque chose qui est mis en place par le gouvernement. C'est lui qui est responsable de ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va contacter le service de communication du gouvernement pour dire, le pass sanitaire, on nous demande, est-ce que oui ou non, on pourra aller au restaurant si on l'a ou on l'a pas.
Bon, et à ce moment-là, on te répond ?
À ce moment-là, on me répond très clairement, ça ne touchera pas les restaurants. Très clairement. Donc, du coup, moi, ce que j'explique sur les réseaux sociaux, c'est à l'instant T, non, le pass sanitaire, pas d'inquiétude, ça ne touche pas les restaurants. Le gouvernement, un mois ou deux mois après, je n'ai pas la chronologie exactement en tête, change d'avis. Et ce qu'oublie de dire les gens qui repostent le même message chaque fois, c'est que nous, à ce moment-là, on dit le gouvernement n'a pas tenu sa parole sur ce point précis, puisqu'il avait dit clairement on ne le fera pas. Il n'a pas dit on ne le fera probablement pas. Il a dit on ne le fera pas. Et ensuite, il dit on va le faire. Bah, du coup, on dit le gouvernement s'est dédié là-dessus. Il a dit quelque chose qui finalement était faux. Mais après, on me dit, mais moi, je ne pouvais pas inventer la réponse à un instant T.
Mais tu ne pouvais pas inventer la réponse qu'elle allait venir deux ou trois mois après, quoi.
Exactement. Donc, moi, j'ai simplement dit ce que je savais à ce moment-là. Et quand j'ai eu une autre information, j'ai donné cette autre information. Et imaginez, en tant que journaliste, si à l'instant T, je ne vous avais pas donné l'information, on m'aurait dit, mais vous quoi, vous cachez ? Vous ne savez pas ? Voilà. Je suis obligé, en tant que journaliste, il faut le savoir, on est obligé de... Le gouvernement est un acteur parmi d'autres. Et donc, quand on me pose des questions sur ce que dit le gouvernement, je rapporte la parole du gouvernement aussi, comme je rapporte d'autres paroles. Tu le fais aussi, Samuel, on rapporte les paroles.
En sourçant toujours, hein, en donnant la source, c'est important pour savoir d'où vient l'information. Comme ça, si la source nous ment, hein,
ou change d'avis.
Voilà. Oui, enfin, quand la source dit, par exemple, ça, on ne le fera pas, et puis finalement, ça se produit, bon, bah, on est à la limite, effectivement, du mensonge, ou en tout cas de la prise de position irréfléchie ou trop rapide, quoi.
Ah ben ça c'est clair, et le gouvernement l'a fait sur bien d'autres sujets. Là on prend celui-là, mais il n'y a pas que celui-là.
Mais je suis content parce que tu vois, par exemple, effectivement, ce tweet que tu évoques là sur le pass sanitaire et l'entrée dans le restaurant, systématiquement quand les gens viennent critiquer mon travail, c'est celui qu'on me sort, donc je suis content que tu l'aies contextualisé en fait.
Ouais. Voilà.
Vous savez que quand je suis avec des invités, je suis beaucoup moins sur le chat, même là si je vous lis beaucoup parce que ça m'intéresse beaucoup. Je crois qu'on va répondre à beaucoup de vos questions aujourd'hui, on va être vraiment en interaction. Mais je remercie très très peu les subs, donc je remercie Luc Aquarelle, c'est aussi une façon de présenter à nos invités les pseudos parfois originaux des viewers. Chris Lacrasse, donc ça c'est un vrai pseudo de viewer, sinon de streamer, merci pour ton abonnement. Glopman2, merci beaucoup pour le Prime. Xudes, Bacanae, Litchi, Sheepdog, magnifique. Merci pour le 19e mois d'abonnement, on est quasiment au maximum, puisque ça fait 20 mois seulement que j'ai ouvert les subs. Merci à tous. Voilà, donc je remercierai les subs de temps en temps, mais je le fais un peu moins quand il y a des invités. Juste avant de démarrer, est-ce qu'au niveau du son et de l'image, vous êtes bien à la maison ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Est-ce que vous voulez que je monte un petit peu le son, je baisse un petit peu le son, avant que je lance le doc. J'ai besoin de votre retour technique. C'est très bien, me dit Ronan. Salut Ronan, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a une petite résonance, puisque donc, cette pièce est vide, ça manque encore un petit peu de meubles, donc vous entendez un petit peu cette résonance qu'on a encore plus dans l'autre pièce, mais sachez que les rideaux arrivent, les petits meubles arrivent, peut-être même les petits tapis pour avoir un joli son. Voilà, mais c'est assez clair. Nickel, un peu plus fort. Ok, c'est plutôt propre. Ça résonne presque plus. Il y a de plus en plus. Alors moi, pour régler le son, notamment, j'ai trouvé la bonne idée d'inviter des gens. Et du coup, ça fait un plus joli son. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un jeune homme qui est caché là. On est plein dans cette pièce, en fait. On est 200 à peu près.
On est 50.
On est 50. Et donc, ton prénom, c'est
Sacha.
C'est Sacha qui travaille avec Julien.
Ouais.
Voilà, et qui va couper des petites choses pour les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Bon, c'est très masculin quand même. Hein.
J'ai vu un tweet qui disait ça, c'est vrai. Et,
ouais.
Bon. Et c'est Luc qui a fait le documentaire. J'ai des filles aussi dans l'équipe, hein, on a plusieurs filles, mais il se trouve que c'est un garçon qui a fait ce documentaire.
Mais d'ailleurs, tu t'es posé la question quand on s'est dit qui vient à la maison, tu m'as dit tout de suite ça fait quand même très garçon, et à un moment j'ai dit mais c'est Luc qui a fait le doc, toi t'es le rédacteur en chef de Vrai ou Fake, bon alors c'est vrai que ça a du sens que ce soit vous deux, quoi. Même si c'est très poilu quand même.
Même si, voilà.
J'avoue. Si j'avais su, je me serais laissé pousser la barbe, ça aurait été super cool. Mais on te voit un petit peu dans la vitre, je crois.
Fais un coucou.
Excellent, t'es là.
Nickel.
T'es là. Je rigole parce que Donc je suis installé depuis très peu de temps, et tu vois, il y a des voisins là, hein, tu vois.
Ils hallucinent.
Mais je sais pas, tu vois, là en face, pareil, le vis-à-vis est très proche. Et donc vendredi, ils ont vu Valérie D'Amido dans ses œils.
Il devait halluciner.
Thomas Soto, Alex Vizorek. Et je voyais les gens étaient à leur fenêtre en train de fumer une clope, tu vois.
Il se passe quoi ici, quoi ?
C'est quoi ce nouveau voisin, quoi ? C'est quoi ce nouveau voisin ? Là, c'est pareil, je sais pas.
C'est vrai qu'on peut limite faire intervenir le voisin de derrière.
C'est drôle, c'est drôle.
En vrai, on a la vue sur une chambre, par contre, c'est un peu étrange. Mais...
Ah oui, il y a une dame âgée là.
Oui,
c'est trop mignon.
Voilà,
c'est trop chou, je suis en dessous. Oui, bien sûr, sera disponible en replay. Alors, ce stream, on va regarder le doc, va être disponible en replay dès la fin de ce stream sur Twitch, demain après-demain sur YouTube, et le doc qu'on va voir, il est disponible notamment sur France Info et sur YouTube.
C'est ça.
Il suffit de taper
des informations, la contagion.
Ce qui est un très beau, très beau lancement. On va le regarder tout de suite. Bon. Donc, je vous le rappelle, c'est Luc Brisson qui a réalisé ce doc.
On dit un peu ce que c'est ou pas ou non?
Bah ouais, bien sûr.
Ouais.
Hop, tenez, je vais le caler déjà ici. Voilà, et hop, il est prêt à player. Luc, quelle est l'intention là du doc de 25-30 minutes qu'on va regarder?
Bah, en gros, nous, comme on l'a dit, on travaille sur les sujets de désinformation. Mmh. Et du coup, mais on fait souvent des sujets assez courts, puisqu'on fait des émissions hebdomadaires avec des sujets.
Donc, c'est quoi? Deux,
oui, c'est
trois
minutes. Deux, trois minutes, c'est ça.
Ouais.
Même si parfois on peut en discuter en plateau pour un peu allonger, bah, c'est des sujets assez courts. Et là, ce qu'on avait envie de faire avec ce doc, c'est un peu raconter la désinformation qu'on a subie dans notre société depuis, on va dire, les gilets jaunes et le Covid, parce qu'on a vraiment vu un vrai changement avec cette période.
Ouais.
Et un petit peu raconter comment ces communautés sont créées, un petit peu les liens qu'il y avait entre elles, comment certaines communautés, on les retrouve sur certains sujets différents. Voilà, et essayer de raconter ça un peu en longueur, et c'est pour ça qu'on a fait ça.
Prendre un petit peu le temps.
Exactement, prendre le temps.
Donc, comment ça se passe d'ailleurs au sein d'une rédaction? Est-ce que c'est Luc qui propose, qui a l'idée, et c'est validé après? Comment ça se passe, Julien?
C'est très variable.
Là, par exemple.
En fait, tous les matins, on a une conférence de rédaction. Donc, on se retrouve et on discute de qu'est-ce qu'on a vu passer,
ouais,
et quels sont les sujets sur lesquels on aura envie de travailler. Et c'est vraiment collectif. Donc on discute, Luc va dire bah, moi aujourd'hui je trouve qu'il y a des déclarations de Véran, j'aimerais bien voir si c'est vrai, ça me paraissait un peu étonnant,
ouais.
Quelqu'un va arriver en disant mais sur le message le plus viral sur Facebook c'est celui-là, là aussi je pense que c'est pas vrai, est-ce qu'on peut regarder? D'ailleurs des fois on aboutit à la conclusion que c'est vrai. Il ne faut pas croire que les fact-checkers, on arrive toujours à la conclusion que ce n'est pas vrai. Des fois, on dit ben, c'est vrai ou c'est plutôt vrai.
Okay.
Ça arrive souvent. Et en l'occurrence, sur ce documentaire-là, je crois que c'est moi qui en avais très envie. Parce qu'en fait, on arrive à la fin de... Ça fait 4 ans que je fais cette émission. Avec une partie de l'équipe est la même. Et je pense que j'avais envie de dire, voilà, on arrive à un moment où on voit tous qu'on est face à un problème de société qui est important, qui a grossi beaucoup depuis la crise sanitaire. Ça avait commencé aussi avec les gilets jaunes, mais la crise sanitaire a vraiment fait exploser ce phénomène de la désinformation. Et je pense qu'il est temps de marquer le coup pour raconter une histoire d'intox, de fake news qui se sont propagées dans nos cercles les plus intimes, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'on a tous des gens autour de nous qui sont perméable à ces fake news, la tante, le cousin, etc. On a besoin maintenant de se saisir de ce sujet qui est un vrai problème de société. C'est pour ça que ça ne tient pas qu'à nous, les journalistes, d'en parler. Et je suis hyper heureux d'en parler avec vous tous parce que, en fait, ce n'est pas un combat qu'on peut mener seul. Moi, Luc, Samuel, le matin sur France Info, on ne peut pas être seul là-dessus. On a besoin d'en parler ensemble. Et si on a besoin de le mener ensemble, il faut qu'on en parle ensemble. Et donc, je suis très heureux, moi, que vous regardiez ce documentaire avec nous et qu'on puisse en parler.
Voilà. Bah, c'est l'endroit idéal, je pense, pour échanger. Combien êtes-vous déjà à être avec nous avant le lancement du doc? On est plus de 3000. Merci d'être là pour ce thème. Fanny Suntag, merci beaucoup pour le raid à l'instant. Merci de ton petit raid. Merci de nous rejoindre. Tu raides au bon moment puisqu'on commence maintenant. Je vous cale. Hop, ici, vous avez donc le doc. Et puis, dans le chat, on va lire vos questions et on va interrompre à la lecture de ce doc. Ben dès que l'un de vous deux a envie de s'emparer d'une question, en fait. Hein, voilà. On est sur Twitch, on a le temps que vous voulez. Quoi. Voilà. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et pareil, si le son n'est pas assez fort pour le doc à la maison, vous me le dites, je peux régler en direct. J'ai juste le bras allongé en passant par-dessus Julien.
On sort les popcorn.
Let's go. Oh, les poumons sont toujours un petit peu irrités, faites pas attention. Go.
Les intox, les fake news, rien de nouveau. Au Moyen-Âge déjà, on accusait les juifs d'empoisonner des puits. Et certains événements plus récents ont déjà exacerbé les théories mensongères. Par exemple, les attentats du 11 septembre.
Vous avez vu ça ? Un missile a été tiré quelques secondes avant l'impact.
Mais depuis quelques années, notamment avec la pandémie de Covid, les fausses infos ont envahi notre quotidien.
Je vais monter le son. Et j'avais déjà une première question, parce que là, on voit qu'on commence par le 11 septembre.
Ouais.
Vous venez nous expliquer tous les deux qu'avec la crise sanitaire, la désinformation a pris une toute autre ampleur, mais ça avait commencé. Est-ce qu'on peut dater l'ère moderne de la désinformation ?
En fait, je pense que ça va beaucoup aller avec l'essor d'Internet, l'essor des réseaux et tout. Le 11 septembre, en fait, ça, les fausses infos et tout, sont beaucoup diffusées sur YouTube parce que c'est aussi le début de YouTube. On partage des vidéos et du coup, c'est là-dessus que ça va assez vite. Là, ce qui a changé, ce qui change aujourd'hui, c'est que les réseaux prennent de plus en plus d'ampleur et c'est là-dessus que ça...
Parce qu'en fait, la désinformation, elle existe depuis.
Mais oui, en fait,
depuis qu'il y a de la formation.
Il y a de la désinformation. Oui.
C'est ça. Il y a toujours des acteurs qui sont tentés d'arranger l'information.
Quand on au temps des rois, il y avait des gens qui distribuaient des pamphlets sous le manteau pour dire que le roi.
Des fake news, en fait.
Oui, il mangeait des enfants, il était. Il faisait des. Et ça se circulait sur des petits papiers qu'on se transmettait. C'est pas une blague, ça marchait comme ça. Et avec chaque. Nouvelles technologies, les fake news, elles ont pris le train des nouvelles technologies. Mais ce qui est vrai, ce qui a vraiment tout changé, c'est les réseaux sociaux, parce que ces fake news, elles touchaient... D'ailleurs, fake news, il faut bien le savoir, c'est un terme, normalement, dans mon milieu à moi, qu'on utilise très peu.
Ah, explique-moi.
Parce que fake news, c'est un terme qui vient de Donald Trump.
Qui est connoté, en fait.
C'est Donald Trump qui a inventé ce message, et au contraire, c'était pour dire que les médias étaient... Fake news. On se rappelle tous de « you are fake news ». Bon, du coup, c'est un terme qui est très connoté parce que c'est vraiment un terme un peu trumpiste.
Quel terme tu préfères, du coup ?
Non, moi, je l'emploie de temps en temps, mais il faut bien savoir ce que ça veut dire. Moi, j'utilise « intox », en fait, d'une manière générale.
Ok, « intox ».
Et « théorie du complot » quand ça s'applique, mais ce n'est pas toujours des théories du complot.
Ok.
Voilà, donc les fake news, c'est vraiment... C'est vieux comme le monde, vieux comme l'info. Mais effectivement, là, on a une accélération. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce récit que vous allez voir. C'est parce qu'on n'est plus sur la même planète. Et je pense qu'on s'en rend tous compte. Il y a eu un effet d'entraînement et d'accélération avec ces réseaux sociaux qui adorent les fausses informations, on pourra en parler après, qui les mettent en valeur. Et là, on est sur une sorte de roue qu'on ne maîtrise plus, qui tourne de plus en plus vite et qui dévale la pente. Voilà.
Tu vois, il y a Le Bétonnier qui écrit « Le 11 septembre a été le début de la vraie industrialisation de la désinformation ». C'est vrai que c'est aussi peut-être un moment où les réseaux sociaux prennent de la puissance, c'est ça ?
Parce que tu commences
ton doc par cette image, du coup. Hein.
Oui, parce que... Alors, j'ai plus l'année, mais YouTube, je sais pas en quelle année ça a été créé, mais on va dire que c'est début 2000.
Ils vont nous donner l'info dans le chat, tu vas voir.
Okay, c'est peut-être 2000, 2004. Voilà.
2004, me dit Yanji, salut Yann.
Donc, c'est pas très longtemps après le 11 septembre, et du coup, c'est là-dessus qu'on commençait à circuler les premières vidéos de fausses théories, etc. etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle aussi du 11 septembre. On n'a pas développé sur l'11 septembre.
Moi, je me rappelle de doc.
2005, donc YouTube.
Très complotiste.
2005,
hein,
peut-être.
Sur le 11 septembre.
2005, ouais.
Ah, non, des docs entiers.
Ah oui.
Ah, oui.
Et surtout, le 11 septembre, il y a eu aussi des gens qui sont passés à la télé. C'était pas que sur les réseaux. Il y a des gens qui sont passés à la télé. Par exemple, à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait Thierry Messan.
Ouais.
Qui était. Je sais plus s'il était journaliste.
Qui a été invité chez Ardisson.
Qui était invité chez Ardisson et qui. Et qui, racontait un peu n'importe quoi sur le 11 septembre. Donc, c'était pas que sur les réseaux, c'était aussi à la télé. Le 11 septembre.
Le fameux, ah oui, Loose Change.
Ouais,
Loose Change, rappelle
c'est
ça, ce c'est documentaire.
Ça, c'est un doc, ouais.
Ouais, bien joué, c'est Asmode360 qui nous donne le titre de ce doc qui disait en fait qu'il y avait un complot derrière le 11 septembre, hein, que c'était pas des missiles, que, etc.
Oh, c'était la CIA en fait, c'était un inside job. Ils voulaient eux-mêmes faire tomber les tours jumelles. C'est ça l'idée.
Donc, pardon pour cette petite pause, mais je trouvais ça intéressant. C'est reparti pour le doc.
Que ce soit sur les réseaux sociaux.
Ils ont fabriqué un virus dans le but de tuer des millions de gens.
Ou dans les rues.
Paupérise la société pour un petit grippette de rien du tout. On fait peur aux gens pour mettre en place le monde global, le nouvel ordre mondial.
La guerre en Ukraine atteint aujourd'hui des sommets de manipulation.
Nous n'avons pas envahi l'Ukraine. Nous avons organisé une opération militaire spéciale.
Et puis, on le sait maintenant, la désinformation peut porter au pouvoir.
Fake, disgusting news.
Alors comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ces fausses informations se propagent-elles aussi vite ? Et surtout, à qui profitent ces intox ? Récit d'un monde qui bascule dans la désinformation. À l'automne 2018, un mouvement fait son apparition. Les gilets jaunes. Des femmes, des hommes et une colère.
Petite pause, Julien, tu voyais une question?
Non, il y a plein de questions qui m'intéressaient. Ouais. Alors, je pense qu'on va en parler à d'autres moments.
Non, mais n'hésite pas, effectivement.
Bah, là, par exemple, c'est pas le sujet là tout de suite, mais il y en a quelqu'un qui parlait de Midjourney, donc cet outil qui permet de créer des fausses photos et des fausses vidéos, et qui disait la prochaine grosse étape. Parce qu'en gros, moi, je disais, il y a des étapes. Il y a eu le 11 septembre qui a été une première grosse étape où ça a touché une communauté, ça a radicalisé une communauté très fort autour de cet événement. Ensuite, là, ce qu'on pense, nous, c'est qu'avec la pandémie, il s'est passé quelque chose d'important et de sérieux pour la société. C'est pour ça qu'on en parle. Et là, ce qui pointe du doigt, et je suis assez d'accord, c'est que Midjourney et les outils d'intelligence artificielle vont faire passer les intox dans une autre ère, dans une autre galaxie.
Où le travail de vérification et de debunk va être plus difficile, non? C'est ça?
Ah mais oui, on a... Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo d'un homme âgé qui était au milieu de CRS, le visage ensanglanté. On l'a regardé, moi c'est mon métier, Luc aussi. On n'a pas vu au départ que c'était faux. On se doutait que c'était faux, mais on ne pouvait pas le prouver. Ouais. Et il a fallu 2-3 jours avant qu'on dise « ok, c'est faux ».
Des petits détails dans l'uniforme, notamment des
dans les visières.
Dans les visières. Donc c'est ça.
Mais c'était pas facile parce que oui, rétrospectivement on sait que c'est faux, mais honnêtement au premier regard on galérait. Hein.
Mais c'est vrai que ça fait flipper quand même. Ouais.
Il y avait un commentaire sur les émissions plus grand public là. C'était juste pour.
Ouais.
Il y avait quelqu'un qui mentionnait TPMP et je sais plus ce qu'il mentionnait d'autre. Mais voilà, c'est pour dire qu'on va l'aborde un petit peu dans le doc plus tard.
Il y a des questions sur les gilets jaunes aussi. Mais je pense que ça vient au début du documentaire, non les...
Bah là on est dessus là.
Les gilets jaunes, on est dessus là.
D'accord. Le rôle des gilets jaunes, c'est intéressant.
Si vous tapez point d'exclamation guest ou point d'exclamation invité, vous avez les noms et les refs des deux invités qui sont avec moi, Julien et Luc. On reprend Sud Radio. Il y aura on verra Sud Radio d'ailleurs.
Sud Radio,
dans le doc à un moment.
On en parlera. Ouais.
On reprend le doc.
Mon mari travaille, j'ai deux enfants. Le 15 du mois, on ne sait même pas comment nourrir nos enfants. C'est une honte ce qui se passe. On est des gens qui travaillons et on a besoin de prendre notre voiture. Moi, je suis désolée, j'habite dans le 60 et tous les jours, je vais utiliser ma voiture. C'est 88 € d'essence par semaine et là, j'en peux plus.
Mais au milieu de ces revendications sociales, circulent de fausses informations, notamment en ligne, sur les groupes Facebook. Un gilet jaune aurait été tué dans une manifestation, ce qui est faux, ou encore... Notre constitution française aurait été suspendue. Une intox, là aussi. Autre exemple, avec le pacte de Marrakech. En cette fin d'année 2018, près de 160 États approuvent un texte sur les migrations.
Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.
Objectif, améliorer la coopération entre les pays sur ce sujet. Mais l'extrême droite française fait circuler une fausse interprétation de ce pacte onusien. Il serait contraignant et viserait à déposséder les États de leur capacité à contrôler leur flux migratoire. C'est faux d'un point de vue juridique.
Avant, quand j'avais plus rien...
Oh, une petite pub. Hop, pas attention. Hop. Tiens, pendant qu'on la passe, Julien, tu voulais dire quelque chose. Et moi, juste avant, j'avais une question.
Vas-y, vas-y.
Dans le doc, Luc, tu distingues bien le fait qu'il y a un mouvement qui est un mouvement social, qui est un mouvement très puissant, qui a touché beaucoup de Français, qui est le mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'est une chose, avec des revendications qui pouvaient s'entendre, hein, bien sûr, sur le pouvoir d'achat, notamment sur des craintes. Et puis, c'est greffé de la désinformation sur ce mouvement. Mais c'est deux choses différentes. Et ça, tu le dis bien. Hein.
Oui, l'idée, c'est pas de dire que tous les Gilets jaunes partageaient des fausses infos, hein, pas du tout. Vu que beaucoup échangeaient sur Facebook, il y a de la modération, mais il y en a très peu. On peut dire un peu tout ce qu'on veut, un peu n'importe quoi. Du coup, il y a eu pas mal de désinfos qui s'est greffé à ce mouvement, et peut-être que des gens en ont partagé sans forcément de manière involontaire. Hein. Ça, c'est possible qu'on voit une info, on n'est pas trop sûr, on pense que c'est vrai, du coup, on la partage. Ça, c'est un truc qui s'est beaucoup passé. Mais non, l'idée, c'est pas de dire que tous les Gilets jaunes partageaient des intox, très loin de là, c'est un mouvement social de base, mais t'as de la désinfo qui s'est greffée là-dessus.
Je pense que c'est important de le souligner. Quoi. Ouais, alors, je prends des questions qui sont pas forcément liées au moment du doc qu'on est en train de voir, mais je la trouve intéressante, celle de Mary Poppins. C'est cure beaucoup d'antisémitisme lié à la désinformation. Oui ou non?
Alors, antisémitisme, oui. Alors, quand on parle de... On disait que les fausses informations, ça a toujours existé. Si on commence avec l'antisémitisme dans ce documentaire, vous voyez les premières secondes, c'est parce que les théories du complot, elles se sont cimentées autour de l'antisémitisme depuis très longtemps.
Protocole des sages de Sion.
Voilà, on pourrait en discuter, mais je veux dire, l'antisémitisme, c'est un élément fondamental de ces thèses complotistes. Alors après, on peut changer les juifs par d'autres groupes de la société, mais le ferment est le même, quoi. Voilà. Donc nous, on pense que c'est difficile de ne pas aborder cette question de l'antisémitisme dans un documentaire comme ça. Regardez encore dans des manifestations il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui arboraient une pancarte où il y avait écrit « qui ». Et ouais. Qui c'était qui? C'était les juifs, même si c'était pas dit très clairement. Autour, tous les noms, parce qu'il y avait écrit qui, puis des noms, et c'était que des noms de gens juifs. Ouais. Voilà. Alors des gens juifs, effectivement, qui étaient puissants, hommes, et célèbres, hommes et riches, ouais. Hommes de pouvoir, mais c'était pas un hasard non plus, si c'était des juifs.
Mais d'ailleurs, tu parlais de TPMP tout à l'heure, à un moment TPMP apparaît dans ton doc. Récemment, il y a eu un invité, donc ancien dealer, si je dis pas de bêtises,
oui.
Qui
oui.
était invité sur l'affaire Palmade. Et qui a une heure de grande écoute devant 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs, a parlé de la théorie
de l'adénochrome.
Voilà, donc c'est quand même un truc un peu hallucinant sur une chaîne nationale devant autant de téléspectateurs, donc qui partiellement, potentiellement peuvent croire que puisque c'est la télé, c'est vrai. Donc on va rappeler d'un mot
l'adénochrome,
parce que ça nous renvoie à l'antisémitisme.
Adré, parce que c'est l'adrénaline, ça vient d'adrénaline.
Tu voulais quoi rappeler ce que c'est l'adénochrome?
Oui, et la théorie derrière.
La théorie complotiste de l'adénochrome, c'est qu'en gros, ça serait une substance qu'on trouverait dans le sang d'enfants.
Des enfants.
Et du coup, il y aurait un réseau mondial de trafic d'enfants fomenté par des élites pour justement prendre cet adénochrome et s'injecter de l'adrénochrome.
Pour l'espèce de jeunesse éternelle, oui, voilà. et cette molécule étant soi-disant donc d'autant plus efficace que
la personne est vivante,
la personne est vivante,
l'enlève,
et on la fait souffrir,
ouais,
et torturer, ouais. Donc on part d'un truc de fou, et donc ça a été dit à une heure de grande écoute sur TPMP par exemple, et il y a eu un article très intéressant dans Libération ou dans Le Monde à ce sujet un ou deux jours après, en disant que en fait, ça renvoyait des vieilles histoires aussi d'antisémitisme,
bien
en
sûr.
Fait, puisque dans l'histoire de l'antisémitisme, il y a toujours ces histoires que les Juifs capturent les enfants.
Oui.
Hein? Donc ça, c'est un vieux truc.
Oui, ils leur prennent leur sang et qu'ils ont des cérémonies sataniques avec le sang.
Et en fait, ça, ce n'est que la version moderne, en fait, de cette vieille histoire.
Quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, ces vieilles fake news qu'on voit ressurgir aujourd'hui, elles ont des millénaires presque derrière eux. Elle, et ça fait peur de voir que la société continue à ressortir les mêmes âneries.
Mais là, ce qui était aussi un peu dramatique, c'est que ça soit dit comme ça sur le plateau de DPMP, et que derrière, on laisse le flou un peu de bon, ok, peut-être que ce qu'il dit, c'est vrai.
En tout cas, s'il le dit, ça vaut le coup qu'on en parle.
S'il le dit, ça vaut le coup qu'on en parle. Ouais, voilà.
Le commentaire de Cyril Hanouna en plateau, juste derrière, c'était. En gros, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui le disent sur Internet.
Ouais, donc, c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment pas notre stratégie à nous. Hein, vous l'aurez compris. La tienne, j'imagine, non plus.
On reprend le doc. Pardon pour cette petite pause.
Juridique, mais cette interprétation se retrouve telle quelle chez certains gilets jaunes.
Il est à Marrakech et il va signer
le pacte de Marrakech.
Voilà.
Nous rencontrons cet homme en décembre 2018.
Vous pensez que c'est quoi le pacte de Marrakech?
C'est en fait pour avoir en fait une immigration en fait constante et puis massive. Et
qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Calais, bon, on a vu Calais ce que ça a donné. Et ben là, ce sera Calais puissance 1000.
C'est un des premiers mouvements comme ça où on a senti que les fake news ressortaient énormément. C'était un mouvement qui refusait les canaux habituels, c'est-à-dire les médias. Ils n'avaient pas du tout confiance dans les journalistes. Donc ils avaient leurs propres canaux d'information, notamment Facebook. Et là, c'était forcément très facile pour la désinformation de circuler parce qu'il n'y avait plus aucun filtre.
Mais un an plus tard, un événement va faire basculer cette désinformation dans une autre dimension.
Est-on face à une nouvelle épidémie de grande ampleur? En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS.
Deux premiers cas de coronavirus identifiés en France.
Nous ne savons pas à quel point ce virus est contagieux.
Nous sommes en guerre.
La pandémie de Covid-19 réunit tous les ingrédients pour faire prospérer la désinformation. La peur d'un virus inconnu, dont on ignore l'origine ou même la façon dont il se transmet.
C'est le commentaire de Lazarette, non?
Non, celui juste en dessous.
Ouais.
Facile de cracher sur les gilets jaunes, je pense qu'il faut qu'on réponde à
ça. Ok. Effectivement, donc on est là aussi pour répondre aux questions qui dérangent, comme celle d'Elusa74, bien vu. Facile de cracher sur les gilets jaunes en prenant le pecno du coin.
Qu'est-ce que vous voulez, comme c'est moi qui ai fait pour le coup l'interview, je vais répondre. Je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans la rue, ma démarche est d'aller dans la rue pour parler avec des gens, pour essayer d'engager un dialogue, parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus difficile.
Mais c'est vrai que la question se pose, parce qu'en gros, tu es allé voir Astérix là, et certains se demandent si t'as pas pris un peu le.
Ouais. Alors, cette encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que tous les gilets jaunes pensaient la même chose. C'était un mouvement qui était ultra hétéroclite. Il y avait des revendications sociales tout à fait normales. Et il y a des gens qui se sont battus là-dessus.
D'ailleurs, entre eux, ils s'entendaient pas tous très bien. Tu disais hétéroclite, il y a eu beaucoup de tensions entre les meneurs du mouvement, on s'en rappelle. Hein.
Exactement. Mais après, il y avait aussi une frange de ce mouvement qui a commencé à tenir, on va dire, un langage qu'on connaissait parce qu'il était proche de l'extrême droite, et sur les réseaux on voyait ces arguments qui ressortaient beaucoup. Là, c'est une partie de mon travail, j'ai pas fait que ça. Et ce gilet jaune en particulier, et beaucoup d'autres, à ce moment-là, comme cette information sur le pacte de Marrakech sortait beaucoup, ils ressortaient tous la même information. Donc je l'ai eu lui, que vous avez vu, mais j'en ai parlé à beaucoup d'autres, qui me ressortaient toujours la même information. Et sur ce pacte de Marrakech, encore une fois, la question c'est pas est-ce que l'immigration c'est bien ou pas bien, est-ce que la France devrait moins accepter d'immigrer ou pas, ça c'est pas mon rôle de répondre à ça, c'est à chacun de vous de vous faire votre opinion. Simplement, on disait que ce pacte de Marrakech, qui est un pacte onusien, n'était pas contraignant. Ça veut dire que c'est pas l'ONU qui nous disait à partir de maintenant vous ouvrez les vannes de l'immigration et vous laissez rentrer. C'était un pacte onusien comme beaucoup de pactes onusiens qui n'avaient pas en fait de valeur légale et donc il n'y avait pas de contraintes du tout. Et donc c'est simplement ce que j'ai essayé d'expliquer à cette personne et ça s'arrête là. Et juste pour finir, juste avant, on voit Agnès Buzyn, qui est donc l'ancienne ministre de la Santé, qui est partie juste avant le début de la pandémie. Et je peux vous dire que Agnès Buzyn, quand elle a regardé le documentaire, elle n'était pas contente du tout. Et vous allez comprendre, je crois, pourquoi plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, notre travail, il faut bien comprendre, il fait plaisir en général à personne. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé de l'extrême droite.
C'est ça qui est bien, c'est que tu fâches tout le monde, toi.
L'extrême gauche peut nous taper dessus. Ouais. Le camp Macron nous tape dessus tout le temps. On est, on va dire, aimé de personne.
C'est bien
quand
comme
on touche. Alors, quand on touche, en fait, ils sont toujours très contents qu'on fact-check les autres, mais quand on les fact-check eux, ils aiment pas. Bon, bah, ça fait.
D'ailleurs,
pas
un jour, tu vas me fact-check. Ouais, mais je vais râler. Mais ce sera bien, ce sera bien. Alors, il y a un autre truc que je voulais dire, c'est juste au-dessus du message d'Elusa. Tu vois, Elusa, on n'a pas éludé ta question. Il y a Lazarette qui écrit, et ça, ton doc en parle plus tard, Luc. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui profitent financièrement, politiquement, médiatiquement, cette désinformation tous azimuts, c'est devenu un business, et ça, ton doc le montre très bien.
Ouais, ouais, ça, on va en parler plus tard. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais pareil, tout à l'heure, je voyais quelqu'un citer Alec Jones. Alors, on n'en parle pas.
C'est quoi ça?
Alec Jones, donc c'est peut-être un peu le pape des désinformateurs aux États-Unis. C'est on n'en parle pas dans le doc parce qu'on est resté plus sur la France, mais voilà, c'est un Américain qui diffuse toutes les pires théories, on va dire, dans son émission. Alors, il n'y a pas longtemps, il s'est pris une amende de, je crois, plus d'un milliard, plus de 2 milliards d'euros.
Ah, mais oui, c'est lui.
Oui.
Oui.
Mais lui, clairement, c'est vraiment un exemple de comment la désinfo peut devenir un business, puisque lui, clairement, il s'est fait de l'argent avec
mais
ça.
Mais comment la désinfo peut mener
à
des sanctions de fou aussi.
De l'argent, parce qu'il s'est pris une énorme amende.
Ah, ouais, j'ai vu ça.
Mais voilà, lui, clairement, il avait monté une communauté qui regardait.
Il avait une chaîne quoi sur YouTube.
Je sais pas sur quoi il était, parce que sur YouTube, il y en a pas mal qui se sont fait ban, mais je sais pas s'il était encore sur YouTube ou pas. Mais en tout cas, lui, clairement, c'est clairement un exemple de comment la désinformation peut devenir un business.
Ça vous parle ce que dit Lazarette là pour rappel la loi de Brandolini. Je lis, il faut déployer énormément plus d'énergie pour démentir une infox, prouver que c'est faux, plutôt que de créer l'infox ou la diffuser. Sans parler de l'effort d'aller chercher l'info comme citoyen dans le brouhaha, en somme, c'est devenu une activité en soi pour le citoyen. C'est vachement intéressant, ça.
C'est notre calvaire quotidien, ça, la loi de Brandolini. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, quand Luc travaille sur une intox, il va y passer 2-3 jours, une semaine, pour arriver à expliquer que c'est faux. Ouais. La personne qui a créé l'intox, ça lui a pris un clic. Il a dit, il a inventé une théorie sortie de nulle part. Et après, il va te dire, prouve que c'est pas vrai.
Ouais.
Et
puis, c'est chaud, hein.
Bah, c'est chaud. Ouais.
Et puis, on voit ça aussi souvent quand, par exemple, quelqu'un va diffuser une info qui est fausse et va faire plein de retweets ou de likes sur Twitter. Et derrière, va s'apercevoir que c'est une bêtise et va faire un tweet pour dire, bah non, j'ai dit une bêtise. Bah, souvent, ce tweet-là est quand même beaucoup moins buzzé que l'ancien, quoi. Donc c'est
et à supposer qu'il le fasse, ce tweet.
À supposer qu'il le fasse, mais voilà, c'est encore un autre exemple.
Pardon, je vois trop de commentaires intéressants. Je vois celui de Big Meto, c'est des choses dont on parle tous les matins, mais je pense que ça va vous intéresser aussi. Les gens ne font pas confiance aux journalistes, mais en même temps, François, CNews. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que le journalisme ? C'est un grand débat, on va pas le traiter là ce soir, mais tu vois, tu parles de François, par exemple. Alors, François, à une époque, ça a été un journal, ça a été un grand journal populaire français. François, aujourd'hui, ça n'est pas un journal. Aujourd'hui, François, ce sont des gens qui ont racheté la marque François et qui en ont fait un blog, un site, pardon, mais en fait, qui est conspirationniste. Tu vas voir les gens qui écrivent là-dedans, on est vraiment sur exactement ce dont parle le documentaire qu'on regarde ce soir. Le problème, c'est que François a gardé la marque François. Donc, c'est plus du tout un journal. Tu parles de CNews, bon, je vais pas juger des confrères qui sont...
Bon, on va pas les mettre non plus les deux dans la même...
Et d'ailleurs, on va pas les mettre sur le même niveau. Mais toi, par exemple, tu n'apprécies pas CNews et tu en déduis que le travail du journaliste est équivalent à ce que tu n'aimes pas. Donc là, c'est des choses différentes. Moi, je le dis souvent le matin. Le journalisme, c'est une activité humaine. Donc les journalistes se trompent. Les journalistes se trompent comme un dentiste peut se tromper, comme un médecin peut se tromper, comme un boucher peut se tromper, comme n'importe quel métier peut se tromper. Alors le problème, c'est que les conséquences elles peuvent être un peu ennuyeuses quand même. C'est une activité humaine. Moi, je pense que l'immense majorité des journalistes en France, ceux que je croise, que j'ai croisés en 25-30 ans de métier, sont des gens qui sont honnêtes et investis, qui peuvent parfois se tromper. Et dans ces cas-là, il y a, je vous en parle tous les matins, une rédaction autour qui doit être la première à encadrer ce travail et à, avant la sortie même de l'info et puis après, corriger une info si elle n'est pas juste. Mais après, il y a les autres confrères aussi, et c'est très très bien, qui, tous les jours, si vous lisez les journaux vraiment au quotidien comme je le fais, vous verrez qu'il y a des confrères, il y a des gens de Libé qui vont dire dans le Figaro, il y avait cette info qui n'est pas terrible en fait, qui est mal analysée ou inversement. Quoi. Donc, activité humaine, faillible. En revanche, si le journaliste se trompe, il faut qu'il le reconnaisse. Il faut qu'il le reconnaisse, évidemment. Pardon pour cette petite pause, mais je vois trop de commentaires intéressants. Let's go.
Nos vies cloîtrées par les mesures de confinement. Et dès le départ, une intox va s'avérer particulièrement virale.
L'heure est grave.
Il y a Julien qui est parti chercher un petit coca.
Moi, je viens de l'eau.
Luc, et un peu d'eau pour Luc.
Ouais, s'il te plaît.
Ah. Alors, moi, j'avais une question. Tu vois, là, par exemple, je vois quelqu'un à BlackRock qui écrit « Qui vérifie les infos de l'AFP ?» Il y avait une question tout à l'heure qui était « Mais qui fact-check ?» Alors ça, c'est ça chez les gens qui critiquent le fact-checking, que vous pouvez incarner, c'est une question que je vois souvent, c'est « Qui fact-check les fact-checkers ?» Qui vérifie la qualité de debunk des fact-checkers ?» Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une critique un petit peu maligne d'ailleurs. Que je vois sur ce travail. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que c'est sans fin, après.
Alors, c'est sans fin, mais faut savoir qu'il y a beaucoup de... En fait, on regarde aussi ce que font les autres fact-checkers, si on peut dire.
Ouais.
Ils regardent aussi ce qu'on fait. Et ça arrive que, je sais pas moi, mais les fact-checkers de Libé vont reprendre une info qu'ont fait d'autres fact-checkers pour la corriger. Mais d'une manière plus générale, beaucoup de journalistes regardent ce que font les autres journalistes et si en général il y a une erreur faite quelque part, elle va être débunkée ailleurs. Quoi. Donc en fait, on va dire qu'il y a un système d'auto-surveillance, je ne sais pas si je peux dire ça. Mais,
non, c'est ça. Ouais.
Mais qui,
et puis
qui
on est dans une. Il faut quand même expliquer ce que c'est qu'une rédaction. C'est-à-dire qu'il
ne
faut pas croire que le fact-checking, c'est Luc qui tout seul décide de saisir d'un sujet, fait son enquête, publie ce qu'il a mis, et puis voilà, c'est parti. Il y a toute une chaîne éditoriale qui est importante de comprendre. Nous, on n'est pas. Voilà, on n'est pas plus intelligent que les autres, on n'a pas plus de connaissances que les autres, mais on s'applique une déontologie et une façon de travailler. C'est-à-dire que on a dit qu'il y a la conférence de rédaction du matin, on va choisir le sujet, mais après, c'est pas Luc qui travaille tout seul dans son coin. On va discuter tous les deux, donc moi, je suis le rédacteur en chef. Ensuite, on va arriver à un texte, on va s'entendre sur le texte, je vais lui demander de poser des questions en disant « Mais comment t'es arrivé là ?» Comment t'es arrivé là, etc. Et ça sera un premier...
Est-ce que t'es sûr de tes infos ?
Je vais vérifier moi-même. On arrive à une version sur laquelle moi et lui, on est content, on la publie. Mais ensuite, il y a aussi au-dessus de moi des gens qui sont des directeurs de la rédaction. Si je fais une erreur, mes directeurs vont me dire là, il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait ? On va publier un erratum si on pense qu'on s'est vraiment trompé. On va faire une deuxième version pour modifier. On n'est pas seul à travailler. C'est bien important de comprendre qu'on est dans des grosses rédactions où il y a des niveaux d'hiérarchie et il y a des gens qui vérifient ce qu'on fait. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Et le contrôle des journalistes